pire, le 20e siècle, celui des nations, le 21e sera celui des villes. Et il semble que les statistiques leur donnent raison, puisque les chercheurs nous disent que 4 millions de personnes dans le monde rejoignent les villes chaque semaine. Ça veut dire qu'une ville comme Los Angeles naît toutes les 2 semaines dans notre monde. Les gens se concentrent dans des méga-cities et il semble que les villes n'ont jamais eu autant d'influence dans l'histoire des hommes aujourd'hui que depuis l'Antiquité. Et donc on est dans une nouvelle ère où le monde se regroupe autour de grandes concentrations urbaines qui ont plus d'influence que jamais. Dans le classement des grandes villes-monde, Paris arrive en 3e position en termes d'influence culturelle, à cause de l'influence du français dans toute la francophonie, à cause de la pensée qui s'est développée en France autour de la philosophie, et pour bien d'autres raisons comme place économique, place boursière et toutes sortes d'autres critères. Cela veut dire que cette ville a une influence sur le monde qui est considérable, que ce soit sur les plans économiques, culturels, intellectuels et bien sûr spirituels. Et pourtant la réalité, c'est que plus une ville est grande, moins l'église est visible. Si vous allez dans un petit village de France, vous n'aurez pas de mal à trouver l'église. La plupart du temps, elle est en plein centre. Le clocher dépasse toutes les maisons. L'église est au centre du village. Si maintenant vous allez dans une ville comme Dubaï ou New York, eh bien vous aurez énormément de mal à voir l'église. Parce qu'elle est, cachée dans ce brouhaha, dans ce bruit, dans cette agitation qui touche tous les domaines de la vie humaine. Et pourtant, c'est là que se trouvent les âmes. C'est là où l'avenir de la mission se joue. Quand on regarde les villes, parfois nous aurions envie de les suivre, de les fuir, pardon. Tel Jonas qui voulait aller loin de Ninive. Mais c'est là où se trouvent les gens que Dieu veut sauver. Et il y a une autre façon de regarder les villes que de voir l'ampleur du péché et de l'agitation qui y règne, c'est de voir aussi l'espoir qu'il y a dans ces villes. Et les dernières années nous montrent un espoir significatif dans les grandes villes. Et j'ai eu l'occasion, notamment au cours des dernières années, de visiter 2 villes où ce que Dieu fait est particulièrement réjouissant. La première, c'est New York. On estime qu'à Manhattan, dans les années 80, il y avait seulement 1% d'évangéliques. Et ce nombre est passé à 3% en 2000 et approche les 5% aujourd'hui. Et une des raisons, ça a été les mouvements de prière entre les églises, l'implantation et la volonté d'engager les chrétiens dans les différentes sphères de société. Au même moment, ils ont vu la criminalité baisser, l'engagement social des chrétiens augmenter et l'église devenir plus visible. Un autre exemple plus surprenant, c'est Dubaï. J'y étais en mars. Et j'ai pu assister à une rencontre regroupant la plupart des églises évangéliques de la ville qui célébraient la venue des premiers missionnaires américains à Dubaï. Et ils ont démarré avec un modeste hôpital en demandant simplement au tchèque de Dubaï comment ils pouvaient servir la ville. Ils ont démarré avec un hôpital et cela a porté des fruits, à tel point aujourd'hui qu'il y a plusieurs dizaines d'églises à Dubaï. Et que lors de cette réunion avec toutes les églises, le représentant du tchèque lui-même était là et encourageait les chrétiens à implanter plus d'églises à Dubaï. On croirait rêver, mais dans une ville où se trouvent aujourd'hui 200 nationalités, qui visent clairement à jouer un rôle de capitale de la mondialisation, eh bien les églises sont attendues et bienvenues. Et pourquoi cela? Il disait à cause de la contribution positive que les chrétiens apportent à la ville. Alors bien sûr, ça devient plus compliqué si vous essayez d'évangéliser les locaux, il y a d'autres obstacles. Mais néanmoins, il y a de l'espoir dans les villes. Et la Bible va dans ce sens-là. Si on regarde le Nouveau Testament, on se rend compte que les villes et les ensembles urbains ont une place prédominante. La Pentecôte a démarré dans une ville, à Jérusalem. L'apôtre Paul a propagé le message de l'Évangile le long des grandes villes de l'Empire romain. Et puis, la Bible finit dans une ville, la Jérusalem céleste. Et souvent, Dieu va montrer cette opposition entre la ville des hommes, Babylone, et la ville du royaume Jérusalem. Et donc de la même façon, eh bien, nous sommes invités dans la cité des hommes aujourd'hui à témoigner, à rayonner en église pour montrer un avant-goût de ce qu'est la ville de Dieu, celle que Dieu lui-même un jour établira. Et quand on regarde l'écriture, on a des beaux exemples. Et ce matin, je voudrais vous encourager à regarder le premier travail urbain que nous voyons dans le Nouveau Testament, et c'est celui de Jérusalem, dans le livre des Actes. Et on regardera dans Actes chapitre 1 à 6, on lira pas les 6 chapitres, même si je vous invite à les reprendre ultérieurement à la maison et en église, on se concentrera sur des points clés. Mais l'idée, c'est de voir quelle était la dynamique de l'église à Jérusalem, et comment est-ce que cette dynamique peut nous inspirer pour la dynamique de Paris intramuros aujourd'hui. Alors, on pourrait parler de dynamique gym, Jérusalem intramuros, et on verra qu'on voit des critères de ce que l'Église vivait. Une précision peut-être avant de démarrer, je crois que c'est quand même important de le souligner, j'ai bien conscience d'avoir seulement une partie de l'Église devant moi ce matin. Toute l'Église de Paris intramuros n'est pas là. Il faudra ajouter beaucoup d'autres églises évangéliques, ajouter aussi tous les chrétiens qui se trouvent dans les églises historiques et qui ont part à la véritable église de Jésus-Christ, et de se dire c'est cette église-là qui doit rayonner. Et donc alors qu'on regarde ces textes, ne les traitons pas d'une façon où on aurait l'impression d'être nous seuls face à cette grande ville. Dieu merci, il agit de façon beaucoup plus large. Et cela doit nous encourager aussi à penser plus large et à réfléchir comment est-ce que nous entrons en interaction avec le reste de l'Église pour que l'Église rayonne dans la ville. Alors quand on regarde Actes chapitre 1 à 6, eh bien on doit déjà comprendre dans quel rôle s'inscrit le livre des Actes. Et si vous regardez au chapitre 1, du livre des Actes, Luc dit qu'il a parlé dans son premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et sous-entendu, il va maintenant parler de ce que Jésus continue de faire et d'enseigner. Et c'est d'abord dans ce cadre-là que cette histoire d'évangélisation des villes s'inscrit. Avant que nous agissions, c'est Jésus, mort, ressuscité, assis sur le trône de Dieu, qui est en train de continuer son œuvre. Et comment est-ce que Jésus va le faire? Comment est-ce qu'il va installer son royaume? Eh bien, quand les disciples lui ont posé cette question, il leur a répondu, verset 7, « C'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Comment le royaume de Dieu va s'installer? Eh bien, par la puissance de l'Esprit qui va équiper son peuple, son Église, pour le témoignage. Et ce thème du royaume va se poursuivre dans tout le livre des Actes, jusqu'au dernier chapitre où Paul, dans sa résidence surveillée à Rome, continue à parler du royaume de Dieu à tous ceux qui viennent le voir. Et au travers donc de ce livre, Luc nous montre comment Jésus continue d'agir aujourd'hui pour faire avancer son royaume, et il invite quelque part le lecteur à rejoindre cette dynamique, et à dire nous devons nous y inscrire aussi. Et le premier endroit où cette dynamique démarre, c'est donc à Jérusalem, à partir du chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Et on va voir sept critères de cette église qui rayonne dans la ville. Le premier critère que nous voyons, eh bien, c'est que cette église est pleine, remplie, saturée de l'Esprit Saint. Et c'est le premier point qui est évident, dès Actes chapitre 2, puisque c'est l'Esprit lui-même qui donne naissance à ce qu'on pourrait appeler l'église. Et on va le retrouver dans tous ces chapitres de l'église de Jérusalem. On le voit bien sûr en Acte 2, avec la Pentecôte. On le voit juste après dans les discours de Pierre, où quand Pierre parle, Luc souligne Pierre rempli de l'Esprit. Plusieurs fois, Pierre et Jean, les apôtres remplis de l'Esprit. Et puis il y a une réplique de la Pentecôte en Acte 4, où les disciples sont persécutés, ils se rassemblent pour prier, et alors qu'ils prient, il est dit que le lieu tremble et qu'ils furent remplis de l'Esprit à nouveau. Et puis après, quand Pierre est confronté à Ananias et Saphira, encore là, l'Esprit est présent. Et puis à nouveau, avec la deuxième génération de leaders, où on va choisir des hommes remplis de l'Esprit. Et puis finalement, Étienne qui, face à ses persécuteurs, Étienne rempli de l'Esprit. Voilà la gloire de Dieu. Et ça, c'est constant, c'est un refrain qui revient. L'Église est remplie, saturée de l'Esprit. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel nous devons veiller quand on parle d'atteindre la ville aujourd'hui. Est-ce que nous croyons que nos capacités humaines peuvent atteindre cette ville? Et j'espère que la réponse est non. Seule la puissance de l'Esprit le peut. Et donc la priorité pour nos églises, c'est de chercher à être remplis de cette puissance de l'Esprit. Et peut-être que cela parfois nous gêne même d'en parler, parce que la réalité, c'est que nous savons bien qu'au cours des dernières années, la théologie du Saint-Esprit n'a pas été toujours le plus facile à aborder dans le monde évangélique. Parfois, ça a été source de division à tel point qu'on a préféré en parler un petit peu moins. Et parfois, je me dis, mais n'y aurait-il pas là une ruse de l'ennemi qui fait que nous nous détournons finalement de ce qui est essentiel, la présence de l'Esprit parmi nous? Et pourquoi est-ce que cela est si essentiel? Eh bien parce que c'est cette présence même de l'Esprit qui fait que l'Église est le temple de Dieu, le lieu de la rencontre entre Dieu et l'humanité perdue. Et c'est ce qui transparaît dans Actes chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ces symboles ne sont pas anodins. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, vous verrez que quand l'Esprit remplit le tabernacle, il y a les mêmes phénomènes. Le feu au-dessus de la tente, la nuée, le vent, le souffle, c'est Dieu qui est en train de montrer « Je crée un nouveau temple ». Après avoir donné la loi, après la Pâque, 40 jours après, sur la montagne de Sinaï, voilà que dans une nouvelle Pentecôte, cette fois Dieu fait descendre l'Esprit, il vient inscrire la loi non plus sur des tables de pierre, mais sur les cœurs, au sein même de son Église, pour qu'elle puisse être le temple parfait qui était promis. L'Église devient le nouveau temple de Dieu. Et ça pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, nous cultivons cette présence de l'Esprit pour être le temple de Dieu? Ce qu'on remarque dans le livre des Actes, c'est que on ne peut pas forcer l'Esprit à venir. Les disciples sont en train de prier, ils attendent la promesse, mais ils ne peuvent pas le forcer. L'Esprit est libre, on ne peut pas le forcer, mais on peut être disponible pour lui. Et on le voit dans Acte 2, événement historique, majeur, mais on le revoit aussi dans Acte 4. Où ils sont là, ils sont en situation de conflit, et ils prient à nouveau, « Seigneur, manifeste-toi ». Et je crois que ça nous montre qu'il y a bien sûr dans la Pentecôte quelque chose qui est totalement historique, accompli une fois pour toutes. Mais il y a aussi quelque chose dont nous avons besoin d'être renouvelés constamment, et qui demande à Dieu de dire « Mais Seigneur, remplis ton Église à nouveau ». Et c'est le cri des prophètes, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». Et bien sûr, il est déjà là. Mais on a besoin qu'il se manifeste pleinement, plus puissamment. La deuxième chose qu'on voit, c'est que lorsque l'Esprit vient, il fait souvent des choses étonnantes. Ça perturbe. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe ici? De nouvelles langues, des gens qui ont l'air un petit peu exaltés, et puis on le voit dans tous les actes. L'Esprit fait souvent des choses troublantes. Et peut-être que parfois, dans les choses que l'Esprit fait au milieu de nous, ça nous trouble. Qu'est-ce que c'est que cette dynamique PIM? Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Comment se fait-il que Dieu semble agir de telle façon et de telle autre? Et cela ne devrait pas nous surprendre. L'Esprit agit souvent de façon étonnante. Mais quand il agit, c'est à chaque fois dans une intention missionnaire, pour atteindre les autres. Vous avez tout à coup l'Évangile qui s'étend des Juifs à tout le monde au travers de ces langues. C'est la fin de Babel. Dieu cherche maintenant à toucher toutes les nations. Et c'est ce qu'il veut faire ici, dans ces villes, où il y a tellement de nations qui se rassemblent. L'Esprit est là pour ça, pour cette dynamique de mission. Et si l'Esprit est là, premièrement, c'est pour réveiller le cœur du peuple de Dieu. Et on voit ce que l'Esprit fait quand il les touche. Il leur donne une plus grande vision de qui est Dieu et une plus grande passion pour Dieu. Et nous les voyons tout à coup voir la gloire de Dieu et parler des merveilles de Dieu. Parce qu'ils réalisent à quel point Dieu est grand. Et ces disciples qui étaient peureux, qui se cachaient lors de la crucifixion, tout à coup ils ont une telle passion pour Dieu qu'ils sont prêts à se tenir devant ceux-là même qui ont crucifié leur Seigneur. Et tout à coup ils n'ont plus peur et ils sont prêts à tenir ferme. Et ils vont pouvoir dire devant devant Jésus, qui était face à ce Sanhédrin et qui est en train de dire à ce même Sanhédrin qu'un jour Dieu allait leur enlever la vigne et leur donner à un autre. Et il cite le même texte en disant « Il est la pierre angulaire et c'est sur lui maintenant que Dieu bâtit le temple. » Ils sont prêts à confronter comme leur maître le faisait parce que l'Esprit leur donne cette telle passion pour Dieu. Et parfois nous voyons ces grandes villes et nous sommes découragés et on se dit mais comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien la réponse, nous avons besoin que l'Esprit nous donne une plus grande vision de Dieu et une plus grande passion pour Dieu. Parce que s'il est avec nous, qui sera contre nous ? On voit aussi que l'Esprit, lorsque l'Église en est remplie, eh bien l'Esprit va provoquer de la division. Il y a ceux qui croient et qui adhèrent, et puis il y a ceux qui se moquent et qui critiquent. Mais l'Esprit illumine l'Écriture pour que ceux qui adhèrent rejoignent le temple et que cela forme une nouvelle humanité d'hommes et de femmes sauvés, ressuscités des morts pour bâtir le temple de Dieu. Et dans les chapitres qui vont suivre, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 6, Luc va nous montrer que ce nouveau temple de Dieu rentre en conflit avec l'ancien temple qui est là. Et la raison pour laquelle ça rentre en conflit va être montrée à la fin dans le procès d'Étienne qui vient terminer le cycle de Jérusalem. Étienne va être accusé d'attaquer le temple et d'attaquer la loi. Et l'essentiel de sa réponse, c'est de dire aux Juifs « Votre temple est creux parce qu'il ne suit pas le mouvement de Dieu alors que Dieu était un Dieu qui était toujours en mouvement. Il était avec Abraham à Ur comme il était avec Moïse dans une terre païenne dans le désert de Sinaï. Et Dieu se met en mouvement et vous devriez le suivre au lieu de rester figé dans votre temple de pierre. » Et la deuxième chose qu'Étienne leur dit, c'est « Non, je ne détruis pas la loi parce que la loi annonçait Christ, mais vous, vous remplacez la loi par vos traditions et vous continuez à persécuter les prophètes. » Et ça pose la question à chacun d'entre nous. Si l'Esprit veut faire quelque chose au milieu de nous pour atteindre cette ville, est-ce que nous suivons le mouvement missionnaire de l'Esprit ou est-ce que nous restons enfermés dans nos habitudes et nos traditions? Et c'est une vraie question à laquelle toute Église est confrontée. Et maintes et maintes fois dans l'histoire, nous avons vu l'Église se fermer et s'éteindre parce qu'elle refusait le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et elle restait enfermée dans des bâtiments, dans des structures figées et dans des traditions. L'Église évangélique n'est pas à l'abri de ça. Nous pouvons vivre exactement les mêmes choses. Et la question qui se pose dans chaque génération, c'est sommes-nous face à un nouvel âge sombre ou à un nouveau temps de réveil où le royaume de Dieu va avancer? Et la réponse à cette question, eh bien finalement, elle tient à nous. Sommes-nous disponibles, consacrés, prêts à être sous l'action de l'Esprit, à vivre ce temple que Dieu veut vivre au milieu de la ville? La première chose qu'on voit de cette Église qui rayonne dans la ville, c'est qu'elle est remplie, saturée de l'Esprit. Et qu'est-ce que fait l'Esprit? Deuxième chose, il va créer une Église pieuse. Et c'est la première chose qu'on voit après la réception de l'Esprit. Si vous regardez à la fin du chapitre 2 du livre des Actes, vous avez la Pentecôte qui est là. Et tout à coup, ils se retrouvent ensemble dans cette première communauté chrétienne. Il y a un grand nombre d'âmes qui sont sauvées, qui acceptent la parole. Et il se dit, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Une Église pieuse, c'est ce que fait l'Esprit. Il crée ce nouveau temple, et ce temple s'illustre finalement par, on pourrait dire, une culture. C'est pas juste une spiritualité qui est en train de naître. C'est un mode de vie. Et d'une certaine façon, la piété, c'est cela. C'est la culture du royaume de Dieu dans un monde qui est dominé, gouverné par la culture du péché. La piété, ça ne touche pas simplement la prière, la lecture de la Bible, la relation personnelle avec Dieu, Mais en fait, c'est un mode de vie qui touche tous les domaines de l'existence. On dirait aujourd'hui, la piété, c'est le lifestyle, c'est la façon de vivre dans tous les domaines. Ça inclut la spiritualité, mais ça inclut aussi les relations. Ça inclut aussi notre argent. On voit qu'il met en commun. Et c'est pas pour rien que Jésus a associé ces dimensions-là dans le sermon sur la montagne, quand il a parlé de à quoi ressemblent les citoyens du royaume. Il a parlé de la spiritualité, il a parlé des relations, il a parlé de notre rapport à l'argent. Ces choses-là font partie intégrante de la piété. Et lorsque cette piété est vécue dans toutes les dimensions de notre vie, c'est un peu comme la sagesse du livre des Proverbes qui touche tous les domaines de la vie, cette loi qui est écrite dans nos cœurs, eh bien, à un moment, ça se voit, et ça fait que la communauté de l'Église, ce nouveau temple, eh bien, devient un lieu de rédemption. Les gens voient qu'il y a quelque chose de différent. Ceux-ci ne se comportent pas avec leur argent comme le font le reste des hommes. Ceux-ci ne se traitent pas entre eux comme le font le reste des hommes. Ceux-ci ne prennent pas même leur nourriture de la même façon. Ils la prennent avec joie et simplicité de cœur. Et tout à coup, il y a une autre culture qui est là au milieu du monde, qui inclut des hommes et des femmes de toute culture humaine, mais qui vient montrer quelque chose de différent par rapport à la culture du péché. Cette communauté attire les hommes et les femmes et ils trouvent le salut. Et ça pose la question, quand nous réfléchissons à impacter la ville, est-ce que nos églises sont des îlots de piété au sein de cette ville de ténèbres ? Est-ce qu'on voit la culture du royaume de Dieu quand on regarde nos communautés ? Est-ce que ce sont des lieux où les chrétiens sont formés, transformés comme disciples à l'image du Maître, où on leur enseigne à obéir à tout ce que Jésus a prescrit ? Pas des têtes bien pleines de doctrine, hein ? Non, des gens qui obéissent. Et le premier manuel d'obéissance auquel on devrait se conformer, c'est le sermon sur la montagne. Et est-ce que nos églises vivent cela ? Et si nous le vivons, eh bien je crois qu'alors, ça se voit. Nous sommes sel de la terre, lumière du monde, et ça porte du fruit, et Dieu ajoute ceux qui sont sauvés. Une église remplie de l'esprit, une église pieuse. Troisième chose qu'on voit, une église qui a foi en la puissance de Dieu. Si on regarde au chapitre 3, on voit cette scène, ensemble Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, comme ils le font tous les jours. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé aussi tous les jours. Donc on n'est pas dans une circonstance exceptionnelle. On nous a dit, fin du chapitre 2, qu'ils allaient au temple tous les jours. Le boiteux est là tous les jours, mais ce jour-là, il se passe quelque chose. Alors qu'il demande l'aumône, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or. Tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et Pierre dira plus tard dans le texte quelque chose que certaines versions rendent mieux. Il dira, « C'est la foi que donne Jésus qui a rendu cet homme la force. » On ne sait pas ce qui se passe ce jour-là dans la tête de Pierre. Il voit ce boiteux tous les jours. Mais ce jour-là, au moment où il est devant lui, il y a quelque chose en Pierre où le Seigneur dit à Pierre, « Vas-y, maintenant tu pries et moi je le guéris. » Et on le verra dans les chapitres qui suivent, il y aura encore des miracles que vont faire les apôtres. Et puis il y a Étienne également qui agit là. Et ça pose question aujourd'hui, est-ce que nous croyons que l'Esprit veut encore agir avec puissance au milieu de nous ? Et le premier signe de la puissance de l'Esprit, ce sont des vies transformées. Dans mon église, j'aime souvent citer cette anecdote. J'ai un ancien prisonnier, il s'est converti quand il était en prison et est passé d'une vie complètement dissolue. Aujourd'hui, il part implanter une église. Et chaque fois que je vois sa vie, je me dis, mais quel témoignage de la puissance de l'Esprit. Et ça pose question, est-ce que nous croyons à cela? Et je crois que si nous croyons à la puissance de l'Esprit, eh bien ça devrait se voir premièrement dans notre vie de prière. Et on le voit dans Actes au chapitre 4 et au verset 30 et 31, à la fin de leur prière, au verset 30 et 31, ils ont été relâchés par le Sanhédrin, ils se retrouvent pour prier, et au lieu de demander l'arrêt de la persécution, ils vont prier ainsi, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les disciples n'ont pas demandé l'arrêt des difficultés. Ils ont demandé plus d'assurance et la manifestation de la puissance de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi, Il semble que nous ayons peur parfois de demander ça. La première église n'avait pas peur de demander à Dieu « Manifeste ta puissance, donne-nous de l'assurance. Nous voulons te voir te manifester parce que nous croyons que tu peux le faire. » Kevin DeYoung, un prédicateur, posait cette question. Si Dieu exaucait à cet instant toutes nos prières, quel en serait le résultat? Combien y aurait-il d'églises implantées? Combien de gens seraient sauvés? Combien de familles seraient restaurées? Combien de politiciens auraient le cœur transformé et commenceraient à se comporter différemment? Combien de gens seraient sortis de la pauvreté? Et on pourrait continuer la liste. Et moi j'avoue que quand j'ai lu cette phrase, j'avais un peu honte. Parce que je me disais, Seigneur, si ton intervention dans ce monde était à la hauteur de ce que je te demande, eh bien, je dois reconnaître qu'il ne s'y passerait pas grand-chose. Et ça m'a repris. Je me suis dit, mais quelque part, si j'avais vraiment foi en la puissance de Dieu, et que je croyais que Dieu peut tout faire par sa puissance, eh bien je serais déjà en train de marcher dans chaque rue de Paris et de dire, Seigneur, qu'il y ait une église ici, qu'il y ait une autre là-bas, que tu changes le cœur de ce maire de quartier, que tu sortes cette personne de la pauvreté, que tu réconcilies les familles, les communautés. Pourquoi nous demandons peu de grandes choses à Dieu? Au fond, parce que quelque part nous doutons de sa puissance. Si nous croyons vraiment qu'il peut tout faire, demander et cela vous sera donné, alors ça devrait d'abord se voir dans l'intensité de notre vie de prière, seul et collectivement, et de dire, mais Seigneur, fais-le, manifeste ta puissance. Et la bonne nouvelle, c'est que dans l'histoire de l'Église, lorsque le peuple de Dieu s'attend à la puissance de Dieu et commence à prier, eh bien Dieu répond. On raconte qu'en 1857, dans la ville de New York, le 21 septembre, un homme d'affaires, Jérémia Lampier, a démarré des réunions de prière. 21 septembre, il démarre. Au début de l'année suivante, ces réunions regroupaient des centaines de personnes. Les journaux dénombrent des rencontres de prière à plus de 6000 personnes à New York et Pittsburgh. À Washington, des réunions de prière journalières devaient avoir lieu à 5 horaires différents pour gérer la foule. 6 mois plus tard, 50 000 personnes, soit près de 8% de New-Yorkais de l'époque, s'étaient tournées vers Christ et c'était le début du second grand réveil aux États-Unis. Un homme qui n'était pas pasteur, c'était un avocat, un homme d'affaires, qui a commencé à prier et à réunir d'autres avec lui. Il croyait en la puissance de Dieu. Il a su entraîner les autres et les autres ont répondu. Peut-être qu'un des plus grands signes que nous croyons en la puissance de Dieu serait déjà de commencer à nous réunir et à ouvrir des salles de prière dans Paris et à dire, nous croyons que Dieu va agir avec puissance. Alors demandons-lui de grandes choses et agissons en fonction. Une église remplie de l'esprit, une église pieuse, une église qui a foi dans la puissance de Dieu. Quatrièmement, une église qui proclame la bonne nouvelle. C'est flagrant dans cette église de Jérusalem. Ça démarre au chapitre 2, avec la Pentecôte. Mais ça continue ensuite au chapitre 3, après la guérison de ce boiteux, Pierre proclame l'évangile. Et puis ça se voit ensuite à nouveau au chapitre 5, quand il est devant le Sanhédrin. Et ça se voit encore avec Étienne. Et plus toutes les mentions qui sont faites de la prédication de la parole dans la communauté et dans les débats individuels avec ceux qui sont autour. Et si on fait une étude dans l'ensemble du livre des Actes et qu'on regarde toutes les conversions, on en compte à peu près une trentaine, le nombre est un peu flou parce que celle de Paul est rapportée plusieurs fois, mais vous vous rendrez compte que dans tous ces récits de conversion, si vous les prenez un par un, à chaque fois la parole de Dieu est mentionnée. Le seul fois où ce n'est pas le cas, c'est pour la conversion de Paul, puisque Paul a eu une vision directe de Jésus. Mais dans tous les autres cas, il y a toujours la parole de Dieu qui est mentionnée. Dans la moitié des cas, il y a aussi quelque chose de miraculeux. Et je crois que ça nous dit quelque chose d'intéressant. Dieu peut utiliser des choses qui vont amener les gens à écouter la parole. Des miracles, des vies transformées. Mais fondamentalement, sans une communication claire du message de l'évangile, il ne peut pas y avoir de conversion et d'avancée du royaume. Et donc le premier endroit sur lequel nous devons garder le focus, c'est que l'évangile soit clair est clairement proclamé partout où nous passons. Pourquoi? Parce que lorsque l'Église ne le fait pas et qu'elle vit la vie de piété et la puissance de Dieu sans annoncer l'Évangile clairement, eh bien en fait ça ne crée pas des conversions, ça crée de la confusion. Et vous avez trois cas dans le livre des Actes où les miracles créent de la confusion. Et le premier cas, c'est celui de ce boiteux en Actes chapitre 3, où Pierre est obligé de dire « Mais pourquoi vous regardez nous comme si c'était nous qui l'avions fait ?» Et il va expliquer l'évangile et tout à coup devient plus clair. Le deuxième cas, ça sera à Lystre, où les païens prennent Barnabas et Paul pour des dieux à cause des miracles. Et là aussi, ils sont obligés de prêcher l'évangile. Et puis le troisième cas, c'est à Malte, où Paul survit de cette morsure de serpent et ils le prirent pour un dieu. Si nous ne prêchons pas la parole, l'évangile ne peut pas être compris. Et c'est pour ça que l'Église s'attache à prêcher ce message simple. Jésus-Christ est Seigneur parce qu'il est ressuscité. Les hommes sont coupables, ils l'ont cloué à la croix par leur péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus leur offre la repentance et le pardon des péchés. Il offre le salut. L'Église doit continuer à prêcher la bonne nouvelle. Et pour ça, eh bien, il faut que dans nos églises, chaque chrétien soit équipé à témoigner. Il faut que nous investissions dans la formation des prédicateurs. Il faut que nous osions sortir de nos églises et annoncer l'évangile par tous les moyens qui sont possibles aujourd'hui. Une église remplie de l'esprit, pieuse, qui a foi en la puissance de Dieu et qui proclame la bonne nouvelle. Cinquièmement, une église qui tient ferme dans la souffrance. Alors que l'église prêche la bonne nouvelle et vit sa vie de piété, eh bien, elle sorte à de l'opposition. Première prédication, s'en est drain. Deuxième prédication, s'en est drain. Troisième prédication, s'en est drain, martyr. C'est ça le début du livre. Hein ? L'Église se heurte à la souffrance, et pourtant, si on regarde la réaction des apôtres, eh bien, elle peut paraître vraiment surprenante. Quand on voit ce dont qu'il s'agit, on voit plusieurs fois qu'il est dit que les apôtres, eh bien, au contraire, ils se réjouissent. Regardez chapitre 5, verset 41. « Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. » Ils viennent d'être battus. Et finalement, ils se trouvent joyeux d'être jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Les apôtres considéraient ça comme un sujet de joie. Ils avaient compris que la valeur de Christ était telle, et il n'y a que l'Esprit qui peut nous montrer cette valeur, que ça valait la peine de donner sa vie pour lui. Le monde ne pouvait rien apporter de plus, et donc ils étaient prêts à mourir s'il le fallait pour Jésus. Et je pense que c'est peut-être une des choses qui, aujourd'hui, bloque le plus de la croissance de l'Église, en particulier en Occident et en Europe. On a oublié que le réveil ne se fait pas sans une certaine mesure de souffrance et de sacrifice. On oublie que le mot témoin, en grec, c'est le mot martyr, et que c'est la même chose. On oublie que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que des gens sont morts pour Christ. Le premier évangéliste de Paris, au IIIe siècle, c'était Saint-Denis, qui a évangélisé les Parisiens, il est mort en martyr. Sur la butte Saint-Denis, qu'on appelle aujourd'hui Montmartre, Montmartre, le mont des martyrs. C'est là où ils ont été tués, parce qu'ils prêchaient l'évangile. Ça, c'est notre passé, on s'inscrit dans ces lignes-là. Et donc, on devrait pas être surpris d'avoir de l'opposition. Et le problème, c'est que, comme l'opposition nous dérange, parfois on se dit même, s'il y a de l'opposition, c'est peut-être que Dieu ne veut pas qu'on aille là. Eh bien, nous baissons les bras trop vite. Quelqu'un me disait récemment, la prédication de l'évangile en pleine rue, aujourd'hui, ça ne marche plus vraiment. Ça n'a pas d'impact. Les gens tout de suite nous demandent de nous taire et on voit bien que c'est compliqué. Et puis, j'entendais un prédicateur qui citait le journal de John Wesley. Alors je me disais, mais tiens, est-ce qu'en ce temps-là, c'était vraiment plus simple? Et John Wesley raconte cette journée dans son journal où il est sorti dans la rue, il a commencé à prêcher et tout à coup les gens se sont moqués de lui et la police lui a demandé de partir. Alors moi je me dis, je serais déjà sans doute rentré chez moi à ce moment-là. Mais John Wesley n'a pas baissé les bras. Le même jour, il part prêcher dans un champ, et le fermier le chasse. Il rentre dans un autre champ, et le fermier jette son taureau sur lui. Il va dans un troisième champ, et là, les foules à genoux se repentaient. Et je me suis dit, mais est-ce que le problème, ce n'est pas finalement que nous nous arrêtons après le policier, au lieu de continuer un champ, deux champs, trois champs, et de voir à la fin le fruit de notre travail ? Et je crois que nous pouvons bénir Dieu de l'arrivée de frères et sœurs venus de d'autres régions par l'apport des diasporas et qui viennent bouleverser notre culture sur ce point-là. Parce que nos frères et sœurs qui nous viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, ont une approche complètement différente de cette réalité de la souffrance. Ils viennent de cultures où on ne se pose pas la question « si Dieu est bon, pourquoi la souffrance ?» La souffrance fait simplement partie de la vie, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et donc du coup, quand ils discutent en tant que chrétiens de la souffrance, là où nous, parfois, nous sommes d'abord préoccupés par la souffrance qui est le lot de tous les hommes. Et je sais de quoi tu parles, moi-même j'ai une fille handicapée, on sait que cette souffrance nous frappe, et souvent on aime lire le livre de Job et essayer de trouver le réconfort de Dieu dans cette souffrance. Mais la souffrance dont il est question le plus dans le Nouveau Testament, ce n'est pas celle-ci. La souffrance dont il est le plus question, c'est la souffrance pour Christ. Et si nous avons déjà un problème profond avec la question de la souffrance qui est le lot commun de tous les hommes, eh bien forcément nous fuyons la souffrance pour Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que nos frères et sœurs qui viennent d'autres régions et qui sont habitués à vivre cette souffrance, eh bien je crois qu'ils arrivent ici avec peut-être plus de détachement sur les choses d'ici-bas. Un peu plus de hardiesse pour Christ. Et je prie que nous ne les regardions pas avec dédain, en se disant mais qu'est-ce qu'il fait celui-là à prêcher dans le métro? Il ne sait pas qu'il y a un consensus laïque chez nous? Peut-être qu'il ne le sait pas. Peut-être que ce n'est pas la meilleure manière de faire. Mais Dieu voit les cœurs. Et Dieu voit la réalité d'un frère qui est prêt à souffrir pour Jésus, même s'il se prend une baffe ou s'il est traîné au poste. Et c'est cela dont nous sommes témoins quand nous regardons l'église de Jérusalem. Et je crois que ça devrait nous encourager à peut-être inculturer davantage les choses, mais ne pas cacher, sous le fait de prendre une forme culturelle, de ne pas cacher cette réalité d'une peur de la souffrance que parfois nous camouflons en disant « oui, c'est pas très dans la culture, on va faire autrement ». Vraiment, c'est la culture qui pose problème? Ou est-ce que c'est la peur des représailles? Paul dira, il nous avait fait la grâce de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et la souffrance ne pouvait pas arrêter cette église. Alors, le diable a essayé d'attaquer autrement. Si vous regardez dans Actes 3 à 6, vous avez cette confrontation entre les deux temples. Il y a une symétrie dans le récit. À chaque extrémité, vous voyez l'église qui est en situation de croissance. Et puis vous avez deux séries, miracles, arrestation, confrontation avec le Sanhédrin et libération. Et entre ces deux séries, vous avez deux événements qui vont se passer. Un premier dont nous avons déjà parlé, c'est cette église qui prie au milieu de la souffrance pour demander la puissance de Dieu et la hardiesse. Et le deuxième élément qui se passe, c'est l'histoire d'Ananias et de Saphira. Et c'est intéressant de voir qu'au milieu de cette souffrance, Dieu va chercher à attaquer l'église, le diable pardon, va chercher à attaquer l'église différemment parce que la souffrance ne peut pas arrêter l'église. Et qu'est-ce que fait le diable? Eh bien, il va l'attaquer au cœur de sa piété. L'église, à la fin du chapitre 4, est en train de vivre pleinement ce qu'était le mandat du vrai temple dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 14 et 15, les règles étaient très claires. Au sein du temple, on partageait les biens. On les partageait avec l'étranger, avec le migrant, avec le lévite. Mais le temple des Juifs ne vivait plus cela. Mais le nouveau temple de Dieu le vit, lui. La multitude de ceux qui avaient cru, chapitre 4, verset 32, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et dans ce contexte, arrive un ennemi de l'intérieur, Ananias et Saphira. Quel est leur problème? Leur problème, c'est finalement un problème d'idolâtrie. Comme les pharisiens, ils aiment l'argent. Et comme les pharisiens, ils aiment la reconnaissance des hommes. Et ils ont bien compris qu'à un moment, ça allait être compliqué de garder les deux. Parce que s'ils aiment l'argent, ils gardent leur champ. S'ils aiment la reconnaissance des hommes dans cette nouvelle communauté, ils vendent le champ et tout le monde les applaudit pour leur grande générosité. Et donc, comme ils veulent les deux, eh bien, il y a un moment, ils vont choisir le compromis. On fait semblant qu'on a donné tout le champ. Bon, en réalité, on garde l'argent parce qu'on aime bien l'argent. Et comme ça, on a les honneurs des hommes. Et le problème, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas dupe. Il voit l'idolâtrie dans la vie de ces gens. Et l'Esprit, au travers de Pierre, va confronter le péché. Et à tel point qu'une grande crainte nous dit Luc, va s'emparer de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces choses. Et Luc nous montre que c'est cette Église qui est pleine de l'Esprit, qui est pieuse, qui croit à la puissance de Dieu, qui annonce l'Évangile, qui tient ferme dans la souffrance, c'est aussi une Église qui rayonne dans la ville parce qu'elle tient ferme face à l'idolâtrie et au péché. Et la réalité, c'est que l'idolâtrie et le péché ne sont pas moins forts que ce qu'ils étaient aujourd'hui. Et ça pose la question, est-ce que dans nos églises, il y a de la place pour cette idolâtrie, pour ce compromis, pour ce biais, pour cette quête de respectabilité, à la fois dans l'église et envers le monde? Et si c'est le cas, eh bien ça s'oppose, ça fait blocage à la croissance, et c'est un problème que Dieu veut régler. Et ça veut dire que les leaders doivent être fermes là-dessus. L'Église ne rayonnera pas dans Paris s'il n'y a pas une discipline à l'intérieur de l'Église. Nous devons montrer aux gens du dehors qui sont perdus dans les péchés que Dieu les aime tels qu'ils sont. Et que s'ils rejoignent le nouveau temple de Dieu, la rencontre avec Dieu va produire une transformation. Et Dieu ne va pas les laisser tels qu'ils sont. Quelque chose d'autre va se développer. Et notamment sur cette question de l'argent et du matérialisme. Quand les chrétiens reçoivent l'Évangile, tout à coup, ils commencent à utiliser les biens et les choses pour bénir les gens. C'est à l'image de Dieu. Ce monde est dans la logique inverse. Il utilise et exploite les gens pour amasser des choses. C'est peut-être l'une des plus grandes différences entre la culture du royaume et la culture de ce monde. Le rapport que nous avons aux choses, est-ce qu'elles sont un instrument de Dieu pour bénir les gens, ou est-ce qu'au contraire, nous pouvons exploiter les gens pour amasser des choses? Et dans notre société matérialiste et consumériste, c'est probablement là que nous pouvons montrer peut-être la différence la plus significative. Jésus disait, petit troupeau, ton père a cru bon de te donner le royaume. Ainsi donc, vendez vos biens en aumône. Donnez-le aux pauvres, vous aurez un trésor dans le ciel. Tim Keller disait, dans toutes mes années de ministère, j'ai vu des gens venir à moi pour toutes sortes de péchés, mais jamais je n'ai entendu quelqu'un dire « je n'ai un problème avec la cupidité ». André Adoul, un évangéliste français, faisait le même constat il y a 30 ans. « Personne ne m'a jamais dit « j'ai un problème avec mes sous ». Et les deux en sont arrivés à la même conclusion. La cupidité est-elle dans la culture occidentale que nous ne nous rendons même plus compte que nous avons un problème avec ça? C'est dramatique. C'est dramatique. Quand on fait un sondage aux États-Unis, je ne sais pas si ça a été fait en Europe, les chrétiens disent que, idéalement, il faudrait donner 10% de ses revenus à l'Église. Et les sondages montrent qu'en pratique, c'est plutôt l'ordre de 2%. Et ça montre. Pays le plus riche, une générosité tellement moindre. Comment allons-nous vivre ça dans nos grandes villes? Je n'ai pas toutes les réponses. Mais c'est un défi. C'est une question qui s'impose à nous pour détourner des idoles et montrer que Christ a plus de valeur que le matérialisme et le consumérisme. Tant que nous essayons de garder les deux, les gens seront tentés d'ajouter Dieu à leur vie matérielle. Mais si nous montrons de façon radicale qu'une autre vie est possible, alors joyeusement, ils laisseront tomber leurs idoles pour accepter Christ et recevoir la vraie richesse. Une vie plus simple, plus joyeuse, comme ces premiers chrétiens. Et puis dernièrement, cette église est une église qui va gérer la croissance par la multiplication des leaders. Le dernier problème auquel fait face cette église à Jérusalem en acte 6, c'est le problème des veuves d'origine grecque qui sont délaissées. Et oui, l'église a porté du fruit et maintenant elle commence à rentrer dans les quartiers des hellénistes qui étaient à la périphérie de Jérusalem. Et c'était qui ces hellénistes? Eh bien, c'était des juifs qui venaient des diasporas, ils étaient nés dans le monde grec, comme l'apôtre Paul, et puis ils migraient à Jérusalem, souvent à la fin de leur vie, parce qu'ils ont envie d'être enterrés sur le bon des Oliviers pour être le premier à ressusciter quand le Messie reviendra. Et le problème, c'est que quand ils meurent, ils laissent leurs veuves. Et les veuves se retrouvent, on pourrait dire, au crochet de la communauté. Et ce problème qui était présent dans la culture juive se retrouve dans l'Église. Et les hellénistes commencent à murmurer contre les Hébreux. On ne prend plus assez soin de nos veuves. Comment pouvons-nous réclamer de l'Évangile, dire que nous sommes tous égaux devant la croix et on s'occupe des veuves hébraïques et pas des veuves hellénistes? C'était ça le problème. Et derrière ce problème se cache un vrai problème, dénaturer l'Évangile. Et se cache un deuxième problème pour les leaders, qui était celui pour les apôtres, de se préoccuper trop de ça et de lâcher leur mission première, qui était d'annoncer la parole et de continuer à persévérer dans la prière. Alors il faut une grande convocation, et le Saint-Esprit va les conduire à nommer d'autres leaders. D'autres leaders. Et les leaders qu'ils vont nommer, eh bien figurez-vous, ils vont les prendre dans le camp des râleurs. Vous regardez les prénoms, c'est tous des Grecs. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche, c'est même un païen converti au judaïsme. Ce sont ceux qui venaient de la communauté qui râlait, qui vont être choisis par l'ensemble pour régler le problème. Je pense que ça veut dire plusieurs choses. Parfois, c'est ceux qui sont les plus au fait du problème qui sont le mieux à même de le résoudre. Et donc, on devrait s'appuyer sur ces gens-là. Mais à mon sens, ça veut dire aussi autre chose. Dans l'Église et dans tout projet, il y a souvent des critiques. Vous avez des gens qui souvent vont vous dire « C'est tellement bien ce qu'on fait, mais est-ce que tu crois pas qu'on devrait faire quelque chose par rapport à ça ?» Et vous avez celui qui va tout le temps vous rappeler « Mais regarde, tu vois pas qu'il y a des pauvres au milieu de nous et qu'on ne fait rien ?» Ou alors quelqu'un qui va vous dire « Mais tu ne vois pas que les réunions de prière sont désertes et qu'on ne fait rien ?» Et vous avez tout le temps des angles morts comme ça. Et le piège, c'est soit avec les leaders en place d'essayer de tout faire, comme auraient pu le faire les apôtres, et vous finissez par faire rire de bien et vous épuiser. Ou alors, un autre piège, c'est de finir par exclure ceux qui râlent. On les pousse dehors. Tu nous empêches de ronronner en rond avec tes histoires. Et on le pousse dehors. Dehors les râleurs. Mais la réalité, c'est que souvent, il y a deux types de râleurs. Vous avez certains râleurs. Il semblerait que ce soit leur don. Ils râleront pour tout, même quand ça va bien. Et en fait, ce n'est pas des râleurs, c'est du murmure. Et à un moment, eh bien, nous devrions les discipliner, comme Dieu a discipliné ceux qui murmuraient dans le désert. Mais il y a un autre type de râleurs. Ce sont parfois des leaders non reconnus. Ils discernent quelque chose, ils sentent une intuition de l'esprit, ils sont affligés, attristés que nous ne faisons rien. Et le problème, c'est que parfois, ça arrive même chez des gens tout jeunes dans la foi. Leur intention est bonne, mais ils n'ont pas la maturité pour exprimer les choses de façon évangéliquement correcte et fraternelle qui fasse que personne ne se sente blessé parce que la chair n'a pas été assez crucifiée à la croix. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils sont un peu bruts de décoffrage. Et du coup, on a l'impression que c'est du murmure. Mais en fait, il y a une vraie motivation spirituelle derrière. Et la force des apôtres dans ce texte, c'est qu'ils auraient pu dire « Ah, oh, mais de toute façon, avec les hellénistes, ces gens qui se sentent tellement branchés parce qu'ils parlent le grec, ils ont été élevés dans la culture romaine, comment voulez-vous ne pas avoir de problème avec eux ?» Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. On dit « On a un vrai problème. Et on va prendre des gens de cette communauté-là pour nous aider à le résoudre. » Et Barnabas plus tard fera la même chose avec d'autres. Il prend Paul et oui, c'était un persécuteur, mais regardez, et il l'amène aux pieds des apôtres. Il voit ceux qui à Antioche sans aucun titre ont démarré une église et qu'est-ce qu'il fait? Il y va, il les encourage. Et dans PIM, nous avons besoin de cela. Des leaders qui ont un cœur large, qui sont prêts à prendre des coups parce que certains bruts de décoffrage n'ont pas tous les codes, mais qui vont voir l'intention du cœur qui se cache derrière. Et de dire, c'est pas bête ce que tu dis. Je crois même que l'Esprit Saint est en train de nous pousser dans cette direction. Et si on en discutait? Viens, on fait une réunion et on réfléchit comment résoudre le problème. Et la réponse à la fin, c'est qu'on finit par nommer de nouveaux leaders. Et ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ces leaders-là, ils étaient juste là pour distribuer l'argent aux tables, hein, pour répartir la collecte. Mais dans ces leaders-là, vont se lever les deux prochains leaders majeurs de la suite de l'histoire. Étienne, premier martyr, et dont le martyr aboutira ensuite à la conversion de Paul, et Philippe, le premier missionnaire qui va partir en Samarie, ira jusqu'à Césarée, et ça va nous amener jusqu'à la conversion de Corneille et l'ouverture aux païens. Qui aurait pu prévoir que de cette communauté d'hellénistes râleurs qui nous empêchait de ronronner en rond, allait se lever la prochaine génération, les stars de l'Église. Et c'était cela qui se passait. l'Église multipliait les leaders. Une Église qui rayonne dans la ville, c'était une Église remplie, saturée de l'Esprit, une Église pieuse, une Église qui avait foi en la puissance de Dieu, une Église qui proclamait la bonne nouvelle, une Église qui tenait ferme dans la souffrance, qui faisait face au péché sans compromis et qui était prêt à multiplier les leaders pour gérer la croissance. C'était le nouveau temple de Dieu, une Église qui rayonnait dans la ville, à tel point qu'à la fin de ce cycle de Jérusalem, Luc nous dit même que les multitudes augmentaient et que maintenant une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Même les gens de l'ancien temple avaient compris que là se trouvait le nouveau temple. Et Dieu a utilisé cette église rayonnante pour évangéliser le monde. Antioche, et puis la Méditerranée, et puis l'Éthiopie, et puis ceux qui sont partis, nous dit l'histoire de l'église, jusqu'en Inde et ailleurs. Et ça pose la question pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à laisser la place au Saint-Esprit et à lui demander de faire de nous une telle Église? Qu'est-ce que nous allons faire pour renforcer notre piété, renforcer les liens entre nous et vivre cette communauté de disciples que nous voyons? Qu'allons-nous faire pour ranimer notre foi en sa puissance et nous tenir à genoux à demander l'intervention de Dieu dans la ville de Paris et au-delà? Est-ce que notre vie de prière est le reflet que nous avons foi et que nous croyons que Dieu veut faire de grandes choses, même si nous ne les voyons pas encore? Qu'est-ce que nous faisons pour faire entendre l'Évangile? Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à lâcher nos idoles? Est-ce que nous sommes prêts à multiplier les leaders pour la construction du temple? C'est ces questions que le texte nous pose. Et sans doute, nous n'avons pas toutes les réponses. L'Église ne les avait pas non plus. Mais pourquoi est-ce qu'elle a pu les trouver? Parce que du premier jour, ils avaient compris ce que Jésus avait dit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette Église, elle n'était pas parfaite, mais dès le début, elle se tenait à la disposition de l'Esprit, avec humilité et dans la prière. Peut-être que ce matin, nous nous disons, nous ne sommes pas à la hauteur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et l'apôtre Jean a dit, il disait ça de l'Esprit qui allait venir. Ailleurs dans Luc, il est dit, le Père ne refusera pas l'Esprit à ceux qui lui demandent. Il veut renouveler sa présence parmi nous. Et tout à l'heure, nous nous approcherons de la scène, que ce soit peut-être l'occasion de venir le cœur repentant, en disant pardon Seigneur, où tant de fois nous avons vécu sur nos acquis et sur nos traditions, au lieu de laisser davantage de place à ce que ton esprit veut faire. Montre-nous où il faut de la repentance, où il faut du changement. Montre-nous ce que tu veux produire en nous et bâtis ton église, une église rayonnante. Comme disait Keller, le but, c'est que quand les gens voient l'Église, qu'ils voient se dessiner au sein de la Babylone du péché une esquisse de la cité du ciel, la Jérusalem radieuse, l'épouse que Dieu prépare et qui un jour sera la ville de Dieu sur terre. C'est ce que nous voulons. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple qui est dessiné dans la Bible, de cette église du livre des actes, qui avait tellement de combats, de difficultés, mais qui pourtant a pu bouleverser Jérusalem et ensuite bouleverser le monde, parce qu'elle laissait de la place au Saint-Esprit, elle était vraiment le temple de Dieu, uni à toi. Seigneur, nous te prions que cette même action se poursuive aujourd'hui. Merci parce que tu es déjà présent au milieu de ton église. Merci parce que tu parles à l'église. Et que nous puissions entendre ta voix. Ne pas te laisser à la porte, comme cette église de l'Apocalypse qui t'avait mis dehors. Mais qu'au contraire, nous puissions entendre ta voix, ouvrir la porte, t'inviter à prendre toute la place que tu désires au milieu de nous. Que notre église soit un endroit où la piété est radicale, où l'amour brille, où il y a la joie, la simplicité, une générosité sans borne. Que les différentes cultures s'intègrent. Qu'il y ait de la place pour les nouvelles idées, la créativité que tu veux donner. Qu'il y ait le zèle dans la prière, dans l'annonce de ta parole, pour tenir ferme face à la souffrance. Qu'il y ait une sainte horreur du péché et un amour profond pour le pécheur. Et que tu permettes que cette église rayonne, grandisse et bouleverse cette ville. Tu veux faire de grandes choses ici, à Paris et dans ce pays de France. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui font partie de ton église et qui se réunissent dans d'autres églises évangéliques ou ailleurs dans des églises historiques et que toi tu connais. Seigneur, nous te prions que cette église puisse être visitée par ton esprit et rayonner à Paris dans notre temps pour une nouvelle moisson que toi seul peux produire. La moisson est tellement grande, Seigneur, mais tu es fidèle. Envoie des ouvriers et donne-nous d'être de leur nombre. Amen.